Chapitre 19. Charade en action qu'on donne à deviner au lecteur. Une fois que Becky eut réussi à se faire admettre aux soirées de Milord Stane, cette estimable créature obtint dès lors, dans les salons, toute la vogue à laquelle elle aspirait depuis longtemps. Les maisons les plus réputées et les plus considérables lui furent ouvertes, et elle alla en si haut lieu que l'écrivain et le lecteur de ce roman doivent renoncer à y pénétrer avec elle. L'admission de Becky chez Lord Stane eut pour résultat immédiat que son Excellence le prince de Peterwaradin s'empressa de renouveler connaissance avec le capitaine Crawley lorsque le lendemain il le rencontra au club, et que passant auprès de la voiture de Becky à Hyde Park, il lui fit un profond salut. Mrs. Crawley ne tarda pas non plus beaucoup à être invitée, avec son mari, aux petites réunions que le prince avait à l'hôtel du Levant, qu'il occupait en l'absence du propriétaire. Le marquis de Stane s'y trouvait aussi, et il voyait avec satisfaction le succès de sa protégée. À l'hôtel du Levant, Becky se trouvait en contact avec les plus nobles personnages et les plus grands politiques de l'Europe contemporaine. Parmi tant d'autres, nous citerons le duc de la Jabotière, ambassadeur du roi très chrétien, et qui est devenu depuis ministre de ce monarque. Le noble duc n'eut pas plutôt fait la connaissance de Becky qu'elle devint la commensale ordinaire de l'ambassade française, où il n'y eut plus de bonne partie sans l'aimable et ravissante Mrs. Rawdon Crawley. M. de Truffigny, de Périgord, et M. Champignac, tous deux attachés à l'ambassade française, s'enflammèrent à première vue pour la séduisante épouse du colonel. Et à leur retour en France, suivant l'usage de leur nation, comme ont fait tous les Français qui les avaient précédés en Angleterre, et comme le feront tous ceux qui les suivront, ils racontaient qu'ils y avaient laissé une foule de malheureuses, parmi lesquelles la charmante Madame Rawdon, avec laquelle ils étaient au mieux. Mais nous avons des motifs pour ne pas croire aveuglément à cette assertion. Champignac aimait avec passion l'écarté et faisait, dans le cours de la soirée, une série de parties avec le colonel, tandis que Becky, dans la pièce voisine, chantait des romances à Lord Stane. Quant à Truffigny, il n'osait se montrer à l'hôtel des étrangers par suite des affaires d'argent qu'il avait avec le maître de l'endroit. Et puis, quelle raison Becky aurait-elle eu d'abaisser ses regards sur l'un ou l'autre de ces deux jeunes gens et de leur accorder des faveurs spéciales? Elle les laissait faire ses commissions, acheter ses gants et ses bouquets, lui offrir des loges à l'opéra et multiplier autour d'elle les soins et les attentions. C'était fort bien, mais elle ne s'en amusait pas moins à leurs dépens lorsqu'il s'avisait de lui parler anglais devant Lord Stane. Alors elle se moquait d'eux à leur barbe, en les complimentant avec le plus grand sang-froid sur leur progrès dans la langue anglaise, ce qui ne manquait jamais de faire sourire son noble protecteur. Truffigny fit cadeau d'un châle à Briggs pour gagner à sa cause la confidente de Becky et la chargea d'une lettre que la trop naïve demoiselle remit à sa maîtresse en présence d'une nombreuse assistance. Becky fit circuler le poulet dans toutes les mains et le contenu amusa beaucoup tous ceux qui en prirent connaissance. Tout le monde le vit, à l'exception de Rawdon, qu'il était inutile de mettre au courant de tout ce qui se passait dans la petite maison de Mayfair. Avant peu, Becky vit accourir chez elle non seulement ce qu'il y avait de plus comme il faut, pour nous servir d'une expression usitée parmi les étrangers en tournée à Londres, mais encore ce que l'Angleterre possédait de plus huppé. Et par ce mot, nous n'avons point en vue des gens plus ou moins vertueux, plus ou moins spirituels, plus ou moins bêtes, plus ou moins riches, plus ou moins nobles, mais tout ce que l'on peut comprendre dans cette expression « comme il faut » et sur le compte desquels ce seul mot dit tout. Lady Fitzwillis, Lady Slowbore et autres personnes du même calibre avaient fait chez Lord Stane les avances les plus bienveillantes à Mrs. Crawley. Le soir même, tout Londres le savait, et ceux qui autrefois criaient « haro » sur cette honnête personne restaient désormais bouche close. Wenham, légiste et bel esprit, âme damnée de Lord Stane, allait partout redisant les louanges de Rebecca. L'impulsion une fois donnée, les plus hésitants finirent par aller au-devant d'elle, et dès lors sa position se trouvait prise parmi les gens comme il faut. Mais, mes chers lecteurs, ne vous pressez pas trop d'envier le sort de Rebecca. La gloire de ce monde, comme on dit, est bien passagère. L'expérience a démontré depuis longtemps que les plus heureux sont toujours les plus éloignés du soleil. Becky, qui avait pénétré dans les boudoirs de la mode, Becky, qui s'était trouvée face à face avec le grand George IV, Becky avouait par la suite que tout ici-bas n'est que fumée et vanité. Nous passerons rapidement sur cette partie de son histoire, car il nous serait aussi impossible de la raconter qu'à un profane de dévoiler les rites de la franc-maçonnerie, et de crainte de faire du grand monde un portrait peu ressemblant, nous aimons mieux n'en rien dire du tout et garder nos opinions pour nous. Becky, par la suite, a souvent entretenu ses amis de cette époque de sa vie, de ce temps où elle fréquentait à Londres les salons de la mode et de l'aristocratie. Elle s'enivra d'abord des fumées de l'orgueil, des applaudissements du triomphe, mais elle se lassa bien vite de cette monotonie du succès. Ce fut d'abord pour elle une occupation des plus attrayantes que la préparation de ses jolies toilettes, de ses parures séduisantes. Ce n'était du reste que par un sublime effort d'intelligence qu'elle pouvait établir l'équilibre entre ses faibles ressources et les impérieuses nécessités de la coquetterie, qu'elle pouvait se procurer les toilettes indispensables pour se montrer à ses grands dîners, à ses réunions élégantes, pour se mêler à cette société d'élite avec laquelle elle se retrouvait tous les jours. Il s'agissait de marcher de pair à égal avec ces jeunes gens à la cravate irréprochable, aux bottes vernies, aux gants jaunes, avec ces hommes à la belle prestance, aux boutons dorés, à l'air noble, aux manières tout à la fois polies et hautaines, avec ces jeunes filles blondes, roses et timides, avec ces respectables matrones à la taille élevée et majestueuse, belles encore malgré les années et toutes ruisselantes de diamants. Les anciennes amies de Becky la voyaient d'un œil d'envie et de haine, tandis que la pauvre femme s'avouait déjà tout bas à elle-même qu'elle en avait bien assez. « Je donnerais bien maintenant quelque chose pour être délivrée de tout ce monde », se disait-elle quand elle se trouvait seule. « J'aimerais mieux, je crois, en vérité, être la femme d'un ministre et faire l'école gratuite du dimanche, ou même être une simple cantinière voyageant au milieu des bagages du régiment que de parader ainsi dans ses salons. Il serait infiniment plus gai d'avoir une jupe courte et un maillot et de danser sur des tréteaux à la foire. « Et je suis sûr qu'il y aurait foule pour vous voir », lui disait Lord Steyne en riant. Car Becky avait coutume de confier au noble Lord, avec sa franchise ordinaire, les ennuis et les dégoûts de sa nouvelle situation, et pour sa part, il y trouvait un sujet de divertissement. « Rodon, » continuait Becky, en s'abandonnant à sa veine méditative, « Rodon remplirait parfaitement le rôle d'écuyer ou de maître de cérémonie. Vous m'entendez ? Je veux dire celui qui est au milieu du manège, en grande botte, avec un habit boutonné et qui fait claquer le fouet. Ce rôle irait très bien à sa lourdeur, à son ampleur, à ses allures militaires. Je me souviens encore d'une fois où mon père m'avait, dans ma jeunesse, conduite à la foire de Brook Green. Au retour, je me fabriquais une paire d'échasses et me mis à danser dans l'atelier aux grands applaudissements de tous les élèves. « J'aurais bien voulu voir cela, » lui dit Lord Steyne. « Et moi, je ne demanderais pas mieux que de recommencer, » répondit Becky. « C'est pour le coup que Lady Blinkey ouvrirait des yeux tout grands et que Lady Grizel la prude nous ferait voir toutes ses rangées de dents. Mais silence, voici Pasta qui chante. » Becky s'était fait la loi de se montrer toujours pleine d'attention pour les artistes que l'on appelait dans ses soirées aristocratiques. Elle allait les chercher jusque dans le coin où ils se retiraient en silence, leur serrait la main, leur faisait fête en présence de tout le monde. N'était-elle pas une artiste, elle aussi, comme elle disait avec tant de vérité ? Enfin, grâce à sa franchise et à ses airs de camaraderie avec eux, elle finissait toujours par en arriver à ses fins, et ils n'avaient jamais mal à la gorge quand il s'agissait de chanter chez elle ou de lui donner des leçons gratis. Vous avez beau en paraître surpris, la petite maison de Curzon Street avait ses soirées musicales. À de certains jours de la semaine, une longue file de voitures avec leurs lanternes éblouissantes encombrait la rue au grand désespoir du numéro 100, dont le sommeil était incessamment troublé par le tapage des roues et le bruit du marteau. De gigantesques laquais accompagnaient ces voitures, et l'antichambre de Becky suffisait à peine pour les contenir. La plupart étant obligés d'aller prendre domicile dans les cabinets voisins, d'où les appelaient ensuite de petits gamins lorsque leur maître les demandait pour partir. Les plus grands élégants de Londres se marchaient sur les pieds en gravissant l'étroit escalier de béquille, tout en souriant en eux-mêmes de l'idée qu'ils avaient de venir s'égarer jusque-là. Plusieurs dames du grand ton, d'une vertu à toute épreuve et d'une sévérité sans égale, venaient se faire voir dans ce petit salon et entendre les artistes qui, donnant à leur voix le développement ordinaire, chantaient à faire crouler la maison. Le lendemain, on lisait dans le Morning Post, à l'article des causeries des salons, le passage suivant. Le colonel Crowley et sa femme ont reçu hier à dîner une société d'élite. On y remarquait leurs excellences, le prince et la princesse Peter Warradin. Son Altesse, Papouchi Pacha, ambassadeur turc, accompagné de Kibob Bey, drogman de l'ambassade. La marquise de Steyne, le comte de Southdown, M. Pitt et Lady Jane Crowley, M. Welk, etc. Après dîner, il y a eu grande soirée, à laquelle ont assisté la duchesse douairière de Stilton, le duc de la Gruyère, la marquise de Chester, le comte de Brie, le comte Alexandre de Strachino, etc., etc. Nous laissons à l'imagination du lecteur le soin de compléter comme il lui plaira cette liste aristocratique. Dans ses rapports avec les gens de haute volée, notre petite enchanteresse montrait une franchise et une humilité adroite qui ne tardaient pas à lui concilier les personnes qui avaient d'abord conçu pour elle la plus vive prévention. Une fois, dans un des premiers hôtels de Londres, où elle mettait peut-être trop d'affectation à parler français avec un ténor de cette nation, Lady Grisel Macbeth jeta sur les deux causeurs un regard dédaigneux et sarcastique. « Vous parlez français dans la perfection, » lui dit d'un air pincé Lady Grisel, qui se piquait de parler fort bien cette langue, mais qui ne pouvait se défaire d'un accent écossais des plus désagréables. « Pourrais-je ne pas le savoir ?» dit Becky d'un ton modeste et en baissant les yeux vers la terre. « Je l'ai appris en pension, et de plus ma mère était française. » Lady Grisel fut attendrie par l'humilité de cette petite femme. Tout en déplorant les fatales tendances d'un siècle égalitaire qui laissait arriver des personnes de toutes conditions dans les rangs supérieurs de la société, elle reconnaissait du moins que Mrs. Rawdon avait le tact nécessaire pour se conduire et ne pas sortir de la place que sa naissance lui avait assignée. Cette noble dame avait du reste une excellente nature, faisait de larges aumônes aux malheureux, mais dans son esprit borné et mesquin, elle s'était persuadée, mon cher lecteur, qu'elle était d'une patte bien préférable à vous et moi. Lady Steyne, elle-même, depuis la scène du piano, avait aussi subi l'ascendant de Becky, et peut-être au fond n'éprouvait-elle pas pour elle une trop vive répugnance. Les jeunes dames de la maison de Gaunt avaient aussi fini par se radoucir. Deux ou trois fois, mais inutilement, elles avaient cherché à susciter des affaires à Becky. Quand Becky se voyait attaquée, elle prenait un air ingénu et candide, à la faveur duquel elle ripostait par les plus cruelles méchancetés, qui laissaient tout étourdi ceux qui d'abord avaient pensé l'humilier et la réduire au silence. M. Wagg, le bel esprit, le bout en train de la maison, l'écuyer tranchant de Milord Steyne, reçut des dames de la maison la mission délicate de faire contre Becky une charge à fond de train. Ce vaillant champion de la petite coterie féminine jetait à ses protectrices un regard souriant et vainqueur, et il clignait de l'œil comme pour leur dire « Attention, nous allons bien nous amuser ». En effet, il ouvrit le feu contre Becky, qui mangeait tranquillement sa soupe. La petite femme, prise à l'improviste, mais toujours équipée pour le combat, se mit en garde sur le champ et riposta avec une vigueur qui fit rougir de honte M. Wagg. Puis elle se remit à manger son potage avec un calme et un sourire placide. Le protecteur de M. Wagg, Lord Steyne, qui le recevait à sa table et lui prêtait de temps à autre un peu d'argent, lança au pauvre diable un regard à le faire rentrer sous terre, et qui manqua presque de lui tirer des larmes. En vain, pendant tout le reste du dîner, il tourna vers Milord des regards piteux et suppliants. Celui-ci ne lui adressa plus la parole de tout le repas, tandis que les dames, se détournant de lui, avaient l'air de le désavouer. Becky, par commisération, fit tout ce qu'elle put pour lui offrir les moyens de se mêler à la conversation générale. Et ensuite il passa de la sorte 6 semaines sans être invité à dîner. Et Fish, l'homme de confiance de Milord, auprès duquel M. Wang se montrait fort empressé, lui annonça que celui-ci était bien résolu, dans le cas où pareil fait se renouvellerait, à remettre certains billets entre les mains de ses hommes d'affaires et à en faire poursuivre l'exécution immédiatement. M. Wang pleurnicha auprès de M. Fish, réclama son intercession auprès de son maître et composa, en l'honneur de Mrs. Rebecca Crawley, un magnifique poème qui parut dans la revue intitulée « Le bilboquet des beaux esprits » dont il était le rédacteur en chef. Enfin, dans tous les lieux où il rencontrait son héroïne, il s'efforçait par mille attentions diverses de regagner ses bonnes grâces. Au club, il flattait et cajolait Rodan, et enfin il obtint de nouveau l'autorisation de revenir à Gaunt House. Becky lui fit bon visage et n'eut point l'air de lui garder rancune du passé. Le grand vizir de sa seigneurie, son confident intime, M. Wenham, qui avait un siège au Parlement et une place à la table de Milord, se montra beaucoup plus prudent et beaucoup plus avisé que M. Wagg à l'égard de la nouvelle favorite, malgré son antipathie innée pour tous les parvenus. M. Wenham était un tory forcené, un aristocrate de vieille roche, bien qu'il eût pour père un petit marchand du nord de l'Angleterre. M. Wenham l'accabla de prévenance et de politesse et lui témoigna une déférence excessive qui causait à Becky un bien plus grand embarras que des attaques franches et ouvertes. On se demandait aussi dans la société élégante d'où venait au Crawley tout cet argent qu'il dépensait en toilettes et en fêtes. Ce mystère provoquait de temps à autre de petits chuchotements et devenait un texte de mauvais propos pour plus d'un commentateur satirique. Les uns affirmaient que Sir Pitt avait abandonné à son frère une portion de revenus considérable. Il fallait avouer en ce cas que Rebecca avait pris sur le baronnet un grand ascendant ou que ce dernier avait bien changé avec les années. De mauvaises langues cherchaient à faire croire que Rebecca était dans l'habitude de lever des contributions forcées sur les amis de son mari, qu'elle se présentait chez celui-ci les larmes aux yeux et lui racontait qu'on venait de saisir ses meubles ou bien qu'elle se jetait aux genoux d'un autre, lui déclarant qu'elle et son mari n'avaient plus à opter qu'entre la prison ou la mort, s'ils ne trouvaient pas sur le champ de quoi payer leurs billets échus. Le bruit courait qu'elle avait fait de nombreuses dupes avec ce genre de comédie. Sans vouloir en dresser ici la liste, nous pouvons dire que si elle avait tout l'argent qu'on l'accusait d'avoir emprunté, extorqué ou dérobé, elle aurait disposé d'un capital suffisant pour mener une vie honnête et pour, mais n'anticipons pas, sur la suite de cette histoire. Ce que nous pouvons affirmer, c'est que la pauvre Becky, sur laquelle on faisait courir de si vilains bruits, se conduisait, après tout, en bonne ménagère, et qu'à force d'intelligence, elle parvenait à n'avoir à sa charge, les jours de réception, que l'éclairage de son appartement. Les bois de Steelbrook et les serres de Crawley la Reine lui fournissaient tout le gibier et tous les fruits dont elle avait besoin. Les caves de Lord Steyne étaient à sa disposition, et les cuisiniers du noble lord venaient les jours de gala s'installer dans sa petite cuisine, où arrivait à profusion, d'après l'ordre de leur maître, tout ce qui pouvait flatter le palais le plus délicat. Y avait-il donc là matière à répandre ces mauvais bruits sur le compte de la pauvre Becky? Si l'on voulait bannir du monde tous ceux qui font des dettes ou qui ne les payent pas, si on voulait entrer dans les détails de la vie intime de chacun, faire le compte de son voisin et lui tourner le dos parce qu'on n'approuve pas l'emploi qu'il fait de ses revenus, la foire aux vanités deviendrait bientôt une affreuse solitude, un séjour inhabitable. Tous les hommes seraient en guerre perpétuelle, et les bienfaits de la civilisation seraient bien vite mis à néant. Non, non, ce n'est point ainsi qu'il faut vivre. Il faut montrer les uns pour les autres beaucoup de charité et de tolérance, c'est le seul moyen de rendre la vie supportable. Dites du mal de votre voisin tant qu'il vous plaira, traitez-le de fripon et de coquin. Mais ne l'envoyez pas à la potence pour cela, et au contraire, tendez-lui la main si vous le rencontrez dans la rue. Il a un bon cuisinier, cela suffit. N'en voilà-t-il pas assez pour oublier tous ses torts? C'est à ces seules conditions que le commerce peut prospérer, la civilisation fleurir, la paix se consolider, les tailleurs inventer de nouvelles coupes et de nouvelles broderies, et le propriétaire du Clos Lafitte trouver un honnête bénéfice sur la vente de ses vins. À cette époque, les charades en action, genre d'amusement emprunté à la France, faisaient fortune en Angleterre. C'était le grand plaisir du moment. Elles fournissaient à bien des femmes l'occasion de produire leur beauté et à un nombre beaucoup plus restreint de se signaler par leur esprit. Lord Steyne, à l'instigation de Becky, qui se reconnaissait peut-être en possession des qualités que nous venons d'indiquer, Lord Steyne, disons-nous, résolut de donner à son hôtel une fête où ces miniatures dramatiques devaient avoir les honneurs de la soirée. Nous demanderons au lecteur la permission de l'introduire dans cette brillante réunion, et ce ne sera point sans une certaine tristesse, car nous craignons bien, hélas, que ce ne soit pour la dernière fois. Une des extrémités de la magnifique galerie de tableaux de Gaunt House avait été disposée en amphithéâtre. Elle avait, du reste, déjà servi à cet usage, au temps du roi George III, et l'on pouvait voir encore un portrait du marquis de Gaunt en perruque poudrée et en ruban rose, vêtu d'une tunique romaine, remplissant le rôle de Caton dans la tragédie du même nom par M. Addison, représenté devant son Altesse royale le prince de Galles, l'évêque d'Osnabrück et le prince William Henry, tous trois enfants comme les acteurs. Deux ou trois vieilles décorations furent descendues du grenier et remis à neuf pour la circonstance présente. Le jeune Bedwin Sands, qui revenait d'un voyage en Orient, fut chargé du soin d'organiser la représentation. Savez-vous bien qu'il ne faut pas badiner avec un homme qui a voyagé en Orient, qui a publié un in-quarto et passé plusieurs semaines sous une tente dans le désert. L'in-quarto contenait plusieurs gravures représentant Sands en costumes orientaux. L'auteur avait ramené des pays de l'aurore un nègre aussi effrayant par sa mine que celui de Brian de Bois-Guilbert. Lui, son nègre et ses costumes reçurent à Gaunt House un excellent accueil, comme une très bonne acquisition dans la circonstance actuelle. Voici d'abord la première charade. Un officier turc, on suppose que les janissaires existent encore, et que le turban, cette ancienne et majestueuse coiffure des vrais croyants, n'a point été remplacé par un bonnet sans caractère, un officier turc est couché sur un divan où il fume un narguilé. Par égard pour les dames, on s'est contenté de mettre dans le fourreau une pastille du sérail. Le seigneur turc bâille à se démonter la mâchoire et donne mille autres signes non équivoques d'ennui et de paresse. Il frappe des mains et aussitôt apparaît Mesrour, le chef des eunuques, les bras nus, des anneaux aux oreilles, un yatagan à la ceinture, enfin tout l'attirail oriental dans ce qu'il y a de plus magnifique et de plus terrible. Il s'incline avec respect et en silence devant son seigneur et maître. Un frémissement d'effroi et de plaisir s'étend sur toute l'assemblée. Les dames se parlent bas à l'oreille. Cet esclave noir était un cadeau fait à Bedwin Sands par un pacha d'Égypte en échange de 3 douzaines de bouteilles de marasquin. Il avait eu autrefois à coudre maintes odalisques dans les sacs de cuir pour les précipiter dans le Nil. « Qu'on fasse entrer le marchand d'esclaves, » dit le voluptueux enfant de Mahomet. Mesrour introduit le marchand d'esclaves. Le marchand conduit une femme voilée. Il lève le voile. Un murmure approbateur circule dans la salle. Sous un brillant costume oriental, on a reconnu la charmante Mrs. Winkworth à la longue chevelure, aux yeux fendus en amande. Ses boucles d'ébène sont entremêlées de diamants et de pierreries. Elle porte pour bracelet et pour collier des piastres attachés l'une à l'autre. Le musulman exprime par un affreux sourire qu'il est satisfait de la beauté de l'esclave. Celle-ci alors se jette à ses genoux, le supplie de la rendre aux montagnes qui l'ont vu naître, où l'attend son fiancé, qui pleure sans doute sa Zuleika. Vaines prières qui n'ont aucun empire sur le cœur endurci d'Hassan. Il rit en pensant au désespoir du fiancé. Zuleika se couvre la face de ses deux mains et s'affaisse sur elle-même avec toute l'éloquence du désespoir. Tout semble perdu pour elle lorsque soudain apparaît Kisla Raga. Kisla Raga apporte une lettre du sultan. Hassan reçoit de la main de l'envoyé le firman redoutable et le porte à son front. Une pâleur mortelle monte à sa figure, tandis qu'une joie féroce éclate sur celle du nègre qui, pour ce rôle, a revêtu un autre costume. « Pitié, pitié !» s'écrie le pacha. Mais Kisla Raga, en faisant une affreuse grimace, lui présente le cordon de soie. La toile tombe au moment où Hassan a déjà autour du cou le terrible cordon. Hassan, dans la coulisse, crie alors aux assistants « Première partie en deux syllabes !» Mrs. Rodden Crowley, qui va jouer dans la charade, s'approche de Mrs. Winkworth et lui fait compliment du goût exquis et de la beauté de son costume. Bientôt commence la seconde partie. La scène est toujours en Orient. Hassan a quitté son costume du Levant pour l'habit d'Europe. Il est dans la salle auprès de Zuleika, dans une attitude qui témoigne de la bonne intelligence qui règne entre eux, et quant à Kisla Raga, il s'est transformé en un esclave noir des plus pacifiques. Nous voici maintenant dans le désert. Le soleil se lève et les Turcs se tournent du côté de l'Orient et impriment leur front sur le sable. Comme on a pu se procurer de dromadaires, l'orchestre tourne victorieusement la difficulté en jouant l'ouverture de la caravane. Sur la scène est une énorme tête égyptienne. À la grande surprise des voyageurs, elle fait entendre une certaine harmonie. Elle chante des chansons comiques de la composition de M. Wang. Les voyageurs orientaux disparaissent en formant une sarabande. « Seconde et dernière partie, deux syllabes !» cria la tête égyptienne. Enfin, la toile se lève de nouveau et le dernier acte commence. Cette fois, le théâtre représente une tente grecque. Sur un lit est étendu un vaillant guerrier. Au-dessus de sa tête sont accrochés son casque et son bouclier. Ils peuvent se reposer maintenant. Ilion est détruit, Iphigénie immolée, Cassandre prisonnière dans le palais. Le pasteur des peuples, représenté par le colonel Crowley, qui n'a jamais su de sa vie ce que c'était que la prise d'Ilion et la captivité de Cassandre, ronfle sur son lit à Argos. Une lampe suspendue au plafond projette sur le guerrier assoupi ses clartés vacillantes. L'épée et le bouclier renvoient aussi une lueur lugubre. L'orchestre joue le terrible morceau de l'opéra de Don Juan au moment de l'entrée du commandeur. Égiste, la figure pâle et bouleversée, arrive sur la pointe des pieds. Quelle est cette sinistre apparition qui suit ses mouvements à travers les ténèbres et semble le tenir sous sa funeste influence ? Égiste lève le bras pour frapper la noble victime qui présente à ses coups homicides sa poitrine à découvert. Il va frapper, mais non, sa main n'ose s'abaisser sur le roi des rois, sur le vainqueur d'Ilion. Clytemnestre alors se glisse dans la chambre comme un fantôme, ses bras sont d'une blancheur éblouissante, ses longs cheveux flottent en désordre sur ses épaules, sa figure est couverte d'une pâleur mortelle, ses yeux jettent un éclat sinistre et terrible qui fait tressaillir tous ceux qui la regardent. Un frisson glacial a parcouru tous les assistants. « Mon Dieu, dit-on tout bas, c'est Mrs. Rodden Crowley !» Avec un geste de mépris sublime, elle arrache le poignard aux mains d'Égiste, s'avance vers le lit, et au reflet de la lampe, on voit le poignard levé sur la tête du guerrier qui sommeille. La lampe s'éteint alors, un gémissement inarticulé se fait entendre, un silence de mort règne sur la scène. L'obscurité mêlée à la terreur de cette scène a vivement impressionné le public. Rebecca a joué son rôle avec une vérité si effrayante que les spectateurs restent comme frappés de stupeur à leur place jusqu'au moment où les lampes se rallument, au milieu des applaudissements partis de tous les points de la salle. « Brava, brava !» crie le vieux Stein d'une voix stridente qui domine toutes les autres. « Morbleu !» murmurait-il entre ses dents. « Elle aurait été bien capable de jouer le rôle au sérieux. » Les spectateurs redemandent tous les acteurs. Les cris de « L'auteur !» Clytemnestre se font entendre par-dessus les autres. Agamemnon, n'osant s'aventurer sur la scène avec la tunique classique, reste dans les coulisses avec Égiste et les autres acteurs de ce petit drame. M. Bedwinson s'avance alors, conduisant par la main Zuleika et Clytemnestre. Un grand personnage veut à toute force être présenté à la charmante Clytemnestre. Et maintenant qu'elle lui a planté le poignard dans le cœur, il lui faut un autre mari. Observe avec beaucoup d'à-propos son Altesse royale. Mrs. Rodden Crowley a été saisissante dans son rôle, ajoute Lord Steyne. Becky le regarde en riant avec un air joyeux et moqueur qu'elle accompagne de ses plus gracieuses révérences. Les domestiques arrivent avec des plateaux couverts de rafraîchissements et les acteurs disparaissent de nouveau pour se préparer à une seconde charade. Les trois syllabes de celle-ci sont jouées de la manière suivante. Pour la première syllabe, on voit le colonel Crowley, chevalier du bain, qui sort de l'écurie avec un chapeau à grand bord, un bâton, un long manteau et une lanterne. Il traverse la scène en criant l'heure qu'il est. Dans une chambre, on aperçoit deux vieilles têtes qui jouent leur sang de piquet, et il est à croire que ces deux bons hommes ne s'amusent pas beaucoup, car ils bâillent sans interruption. Un petit groom leur passe leur robe de chambre, et une bonne à tout faire, représentée par l'honorable Lord Southdown, apporte deux chandeliers et une bassinoire. Quand la bonne s'est acquittée de ses fonctions et qu'elle est repartie, les deux vieux mettent alors leur bonnet de nuit, le groom vient fermer les volets, on entend grincer le pêne dans la serrure. Toutes les lumières s'éteignent et la musique joue « Dormez, dormez, chers amours ». Première syllabe, crie une voix dans la coulisse. Seconde syllabe, les lampes se rallument comme par enchantement, la musique joue l'air connu de Jean de Paris « Ah, quel plaisir d'être en voyage ». Le décor n'a pas changé, si ce n'est que sur la façade de la maison, on aperçoit un écusson aux armes des Stein. Les sonnettes font un bruit infernal. Au rez-de-chaussée, on voit un homme qui présente à un autre une longue pancarte de papier. Celui-ci tape du pied, montre le poing et manifeste par des gestes non équivoques qu'il trouve l'addition trop forte. « Garçon, ma voiture !» crie un autre sur le seuil de la porte. Et en même temps, il caresse le menton de la fille d'auberge, représentée par l'honorable Lord Southdown, et cette fille semble ne pouvoir pas plus se consoler de son départ que jadis Calypso ne se consolait du départ d'Ulysse. Clic-clac, clic-clac, on entend le galop des chevaux et le fouet des postillons. Hôtelier, fille d'auberge et garçon, tous se précipitent à la porte. Mais au moment où l'étranger de distinction va faire son entrée dans la maison, la toile baisse et une voix invisible crie aux assistants « Seconde syllabe !» Pendant que tout se dispose pour la représentation de la troisième syllabe, l'orchestre exécute une symphonie nautique sur les dunes « Mon beau navire » quand les flots courroucés. La nature de la musique annonce qu'on va être témoin d'un épisode maritime. Au moment où le rideau se lève, on entend le tintement d'une cloche. « Mettez le cap à la côte !» crie une voix. Les passagers se montrent d'un air fort soucieux les nuages qui sont représentés par un rideau noir. Tous les marins branlent la tête comme pour témoigner de leur inquiétude. Lady Langouste, représentée par l'honorable Lord Southdown, avec son épagneul sous un bras, son sac de nuit sous l'autre et son mari assis près d'elle, s'efforce de se retenir à un cortège. Plus de doute, on est sur un vaisseau. Le capitaine, sous les traits duquel on reconnaît le colonel Crowley, chevalier du bain, porte un chapeau à cornes et un télescope. Il retient avec la main son chapeau sur la tête et ses vêtements s'agitent autour de lui comme s'ils étaient soulevés par le vent. Au moment où il laisse son chapeau, afin de regarder au large avec le télescope, le chapeau est emporté par le vent aux grands applaudissements de toute la salle. La bise est forte, à ce qu'il paraît. La musique l'exprime par des sifflements et des roulements de plus en plus menaçants. Les matelots ne passent sur le pont qu'en trébuchant pour indiquer la violence du roulis. Le surveillant du navire traverse la Seine en portant 6 baquets. Il se hâte d'en placer un à la portée de Lady Langouste. Lady Langouste pince son chien, qui se met à hurler d'une façon vraiment lamentable. Elle tire de sa poche son mouchoir pour le porter à sa bouche et s'élance du côté de sa cabine. La musique fait entendre des accords de plus en plus précipités qui expriment la violence de l'ouragan. Ainsi s'achève la troisième syllabe. Il existait alors un ballet nommé le Rossignol, dans lequel Montessu et Noblet s'étaient fait une réputation, et que M. Wagg avait transporté sur la scène anglaise en le métamorphosant en opéra, et en adaptant aux airs du ballet des vers de sa façon, comme il savait les faire. Ce ballet fut exécuté avec les costumes français à l'ancienne mode. Le petit Lord Southdown arriva sur la scène avec l'accoutrement d'une vieille femme et s'appuyant sur la canne de rigueur. Une fraîche et pure mélodie sortait d'une cabane de carton entourée de roses et de treillages. « Philomèle, Philomèle !» s'écrie la vieille, et Philomèle apparaît aussitôt. Tonnerre d'applaudissements. Philomèle n'est autre que Mrs. Rodden, qui, les cheveux poudrés et des mouches sur la figure, a l'air de la plus ravissante petite marquise que l'on puisse imaginer. Philomèle arrive toute rayonnante de joie et fredonne un air des plus vifs avec cette innocence qui caractérise les vierges de théâtre. Philomèle fait une révérence. « Pourquoi, mon enfant, lui dit sa mère, êtes-vous donc toujours à rire et à chanter ?» Aussitôt, elle répond par de nouveaux accords. « La rose sur le balcon. Sur le balcon, voyez ma rose, ma jeune rose qui rougit. Sous les pleurs dont le ciel l'arrose, en s'éveillant, elle sourit. Les vents d'hiver l'ont effeuillée, mais le printemps qu'elle invoquait rend à sa tige dépouillée sa rouge fleur, son vert bouquet. D'où vient à son calice une si fraîche haleine? D'où vient à son beau front cette pourpre soudaine? C'est que le gai soleil brille de feu nouveau, c'est qu'on entend dans l'air la chanson des oiseaux. Le rossignol qui du bocage charme l'écho mélodieux avait cessé son doux ramage, et dans les bois silencieux, naguère on entendait sous l'ombre que la bise aux sifflets aigus, qui va battant d'une aile sombre le tronc plaintif des arbres nus. D'où vient, me dites-vous, que l'oiseau du bocage, aux échos attentifs, a rendu son ramage? C'est que le gai soleil brille de feu nouveau, c'est que les arbres nus poussent de verts rameaux. Dans ce concert de la nature, tout suit son penchant et ses lois. L'arbre reprend sa chevelure, la fleur son teint, l'oiseau sa voix. Et moi, quand partout la jeunesse revêt ses riantes couleurs, quand de ses feux le ciel caresse l'oiseau, la verdure et les fleurs, de ses plus gais rayons le soleil me pénètre, un bonheur inconnu s'éveille dans mon être. Je sens s'ouvrir mon âme à des transports nouveaux, et je mêle ma voix à l'hymne des oiseaux. Pendant les repos entre chaque couplet de cette petite romance, la vieille femme à laquelle s'adresse la petite chanteuse, et dont les épais favoris sont encadrés dans un bonnet de femme, semble très désireuse de manifester sa tendresse maternelle à l'ingénue créature qui remplit le rôle de la jeune fille. À chaque baiser qu'il parvient à lui prendre, les joyeux éclats de rire de l'assemblée l'encouragent à une nouvelle tentative. Et tandis que l'orchestre exécute une symphonie qui prétend imiter le ramage de plusieurs oiseaux, un cri général s'élève de toute la salle. On demande bis de toutes parts. Les applaudissements redoublés et une pluie de bouquets témoignent assez du succès remporté ce soir-là par le rossignol Nightingale. La voix de Lady Steyne domine tous les bravos. Becky, le rossignol, ramasse toutes les fleurs qu'on lui a jetées et fait aux spectateurs un gracieux salut digne de l'actrice la plus renommée. Lord Steyne était au paroxysme de l'admiration, l'enthousiasme de ses hôtes égalait du reste le sien. On ne songeait guère maintenant à la séduisante Houris aux yeux noirs, dont l'apparition dans la première charade avait été accueillie avec un si vif plaisir. Elle était deux fois plus belle que Becky, et cependant cette dernière l'avait complètement éclipsée. De toutes parts, on se confondait en éloges sur Mrs. Rawdon. On la comparait aux actrices les plus en renom, et l'on s'accordait à dire, avec quelque raison, que si elle avait embrassé la carrière théâtrale, elle serait arrivée certainement au premier rang. Son triomphe fut complet, et les derniers accents de cette voix émue et vibrante s'éteignirent au milieu d'une tempête de bravos et de trépignements. Au plaisir de la scène succéda le bal, et chacun à l'envi se disputa l'honneur de danser avec Rebecca. Elle était ce soir-là le point de mire de tous les hommages. Le prince royal jura sur son honneur qu'il la tenait pour une petite merveille et rechercha de toute manière son entretien. L'âme de Becky débordait d'orgueil. Elle voyait déjà se presser devant elle la fortune, les distinctions, la renommée. Elle pouvait désormais disposer de Lord Steyne comme d'un esclave. Il ne quittait plus ses pas, daignait à peine adresser la parole à ses autres invités et réservait pour elle seule tous ses compliments, toutes ses attentions. Elle conserva au bal son costume de marquise et dansa le menuet avec M. de Truffigny, secrétaire de M. le duc de la Jabotière. Si M. le duc s'abstint de danser avec elle, ce ne fut que par un sentiment de sa dignité personnelle et par égard pour son caractère diplomatique. Toutefois, il déclara à qui voulait l'entendre qu'une femme qui savait parler et danser comme Mrs. Rawdon aurait pu se présenter comme ambassadrice dans toutes les cours de l'Europe. Appuyé sur le bras de M. Klingenspor, cousin du prince Peter Warradin, et attaché à son ambassade, elle s'élança au milieu du tourbillon de la valse. Le prince, tout hors de lui et ne poussant point le respect de l'étiquette aussi loin que le diplomate français, le prince voulut aussi faire un tour de valse avec cette charmante créature. Le voilà donc avec Becky, pirouettant dans la salle de bal, tandis que les glands de ses bottes à revers et les diamants suspendus à sa veste de hussard voltigent autour de lui. Jusqu'au moment où son Excellence, tout hors d'haleine, se voit forcé de demander grâce. Papouchi Pacha lui-même n'eut pas mieux demandé que de danser avec Becky si la valse eût été un peu plus connue des enfants de Mahomet. De toutes parts, on faisait cercle pour la voir danser, et Taglioni n'aurait pas obtenu des applaudissements plus frénétiques. L'enivrement était général. Rebecca le partageait bien, soyez-en sûr. Elle écrasait ses rivales de ses airs hautains et triomphateurs. Quant aux beaux yeux de la pauvre Zulaïka, ils ne pouvaient lui servir qu'à une seule chose, à pleurer sa défaite et à la pleurer dans la solitude et l'abandon. Le véritable, le grand triomphe de Becky fut au souper, où sa place était marquée à la table du prince royal et au milieu des plus éminents personnages de cette réunion. Le service s'y faisait dans de la vaisselle d'or, et Becky n'aurait eu qu'à en exprimer le désir pour voir, comme une autre Cléopâtre, les perles mêlées à son vin de champagne. Le prince de Peterwaradin lui eut donné la moitié des pierreries qui couvraient son uniforme pour un seul regard de ses yeux si pleins d'éclairs. La jabotière parla d'elle à son gouvernement. Quant aux dames qui soupèrent aux autres tables dans de la vaisselle d'argent et qui avaient remarqué les attentions que Lord Steyne prodiguait à Becky, elles bouillaient de rage et de dépit. Rodan Crowley n'était pas autrement satisfait de tous ses triomphes, et il éprouvait un sentiment pénible à reconnaître à sa femme tant de supériorité sur lui. Quand l'heure du départ fut venue, tous les jeunes gens firent cortège à Becky jusqu'à sa voiture. Le nom de Mrs. Rodan, répété à travers les flots de la foule qui stationnait aux abords de l'hôtel, parvint jusqu'à son cocher, qui ne tarda pas à arriver au trot dans la cour splendidement éclairée, et s'arrêta au pied du perron. Rodan fit monter sa femme en voiture. Il aima mieux, quant à lui, s'en aller à pied avec M. Wenham, qui lui avait offert un cigare. Après avoir pris du feu à l'un des gamins qui se pressait à la porte de l'hôtel, Rodan partit au bras de son ami Wenham. Deux personnes se détachèrent alors de la foule et suivirent à distance les deux promeneurs. Au bout d'une cinquantaine de pas, l'un de ces hommes, s'approchant de Rodan, lui frappa sur l'épaule et lui dit « Pardon, colonel, j'aurais un mot à vous dire en particulier. » Pendant ce temps, l'autre individu donnait un coup de sifflet et, à ce signal, un des fiacres qui stationnait à la porte de Gaunt House s'avança en criant sur son essieu. En même temps, celui qui avait donné le coup de sifflet, faisant un demi-tour, se campait droit en face du colonel. Le brave officier comprit que toute résistance était inutile et qu'il tombait aux mains des recors. Il recula d'un pas et sentit s'abaisser sur lui la main de l'homme qui lui avait d'abord frappé sur l'épaule. « Nous sommes trois contre un, ainsi donc suivez-nous », lui dit celui qui lui fermait la retraite. « Ah, c'est vous, Moss, » fit le colonel, qui paraissait reconnaître son interlocuteur. « Combien vous faut-il ?»« Une bagatelle, » dit M. Moss, auxiliaire ordinaire du shérif de Middlesex, « 166 livres sterling 8 pence à la requête de M. Nathan. » « Pour l'amour de Dieu, Wenham, prêtez-moi seulement 100 livres, dit le pauvre Rodan, j'en ai une soixantaine chez moi. »« Je n'ai pas seulement 10 livres vaillants, lui répondit le pauvre Wenham. Adieu et au revoir, mon bon ami. » »« Adieu, fit Rodan avec tristesse. » Wenham disparut dans les ténèbres et Rodan Crowley continua son cigare dans la voiture qui le conduisait à Temple Bar.